Et bon, d'après certains commentateurs, pour chaque fête, il faut se préparer un mois à l'avance, comme Pessah. Bon, point de vue halakha, on tient que Pourim, c'est uniquement 2 semaines à l'avance. Mais bon, c'est toujours bien de se préparer à l'avance. D'autant plus qu'il y a un Mahamar bien connu au nom du Harizal, qui nous dit qu'il y a un rapport très étroit entre Pourim et Yom Kippour. En effet, si on prend Kippourim, Kippour c'est aussi Kippourim. Alors Kippourim, on peut aussi le lire Ké Pourim, c'est-à-dire comme Pourim. Donc il dit la Harizal, c'est que le jour de Kippour, il est comparé à la fête de Pourim. Le jour de Yom Kippourim, il est Ké Pourim, il est comme Pourim. Lorsqu'on compare, n'est-ce pas, quelque chose à autre chose, donc automatiquement, celui qui est comparé, il est moins important. Donc, dit l'Arizal, donc on va de là, c'est-à-dire que Pourim, n'est-ce pas, il est comme plus important que Yom Kippourim, puisqu'on compare la journée d'Yom Kippourim à la journée de Pourim. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est écrit dans certains mefarshim, certains commentateurs, qu'on peut accéder à des niveaux spirituels très élevés le jour de Pourim, bien plus que Yom Kippourim. Top. Mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, et peut-être une autre fois, Bézat HaShem. Alors, on va faire quelques introductions à la fête de Pourim, puisqu'en effet, c'est une journée à laquelle il faut se préparer. D'autant plus que la fête de Kippour, alors on arrive plus ou moins plus facilement à s'élever spirituellement que Pourim. Puisque évidemment, on est du matin au soir à la synagogue en train de prier, en train de faire tchouva, sans manger, sans boire. Alors bon, bien que ce n'est pas facile, pas évident, mais les conditions se prêtent a priori pour s'élever spirituellement, puisqu'on est détaché de tout ce qui est matériel, on fait la tzé, on fait la tchouva, alors que Pourim, c'est pas, on se met à boire et à manger, faire des festins, on boit du vin, on s'amuse bien. Alors il faut comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut s'élever spirituellement. Mais bon, comme dit, c'est notre sujet, d'abord on va faire quelques introductions sur la fête de Pourim. Alors tout d'abord, le Midrash Rabba nous relate les différents exils de Am Israël. En effet, n'est-ce pas, on connaît qu'il y a 4 exils essentiels. Galout Bavel, Galout Madaï, Galout Yavan et Galout Edom. Donc l'exil de Bavel. Bavel, c'est la Babylonie. De nos jours, n'est-ce pas, c'est l'Irak. Galout Madaï. Madaï, de nos jours, c'est l'Iran. Galout Yavan, c'est la Grèce. Et Galout Edom, n'est-ce pas, c'est le dernier exil, l'empire des Romains. Alors le Midrash explique que chacun de ces empires avait un certain Yetzer Hara, qu'il propageait dans le monde entier, ainsi que sur Amisraël. Bavel, pas Bavel, c'était Yetzer Shlita Baolam Shelo Leshem Shamayim. C'est-à-dire que la Babylonie à l'époque, eh bien, elle avait cette envie, ce désir de dominer le monde entier sans rapport avec Dieu. Une domination, n'est-ce pas, pour un pouvoir personnel, comme l'ont fait évidemment Nebuchadnezzar, Nebuzaradan et encore d'autres empereurs de l'époque. Le second exil, c'est Galout Madaï, et d'ailleurs ça, ce qui va concerner la fête de Pourim, c'est il y avait dans cet empire-là de Madaï un désir, une envie de vouloir profiter du monde le maximum possible. Le maximum de plaisir, de loisir, d'envie, de passion, exprimer les instincts au maximum possible, etc. Ensuite, Galout Yavan. Yavan, c'est la Grèce. L'empire grec était à l'époque basé sur une science humaine, sur une connaissance, une sagesse humaine qui ne dépend pas d'un dévoilement d'Hachem. En effet, à l'époque, eh bien, et les sciences et la philosophie étaient très développées en Grèce. Et ils voyaient, n'est-ce pas, les Grecs voyaient en cela le but, la finalité de l'humanité, de progresser, de s'améliorer, d'avancer dans tous les domaines de science, de philosophie. Même lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'un monde spirituel, d'une élévation spirituelle, d'une philosophie, eh bien, il s'agit de se détacher du monde, pas d'être sans aucun rapport avec le monde matériel. Mais tout cela, c'est basé sur l'esprit humain. C'est-à-dire, ce sont des conclusions philosophiques que ces grands philosophes ont abouti, avec certaines démonstrations, certaines méditations, mais ça ne dépend pas du tout d'un dévoilement divin. Et là, évidemment, n'est-ce pas, ça va à l'encontre d'Am Israël, puisqu'en effet, chez nous, notre science, notre philosophie, notre condition de vie, elle est basée uniquement, essentiellement, sur le dévoilement divin qui a eu lieu lors de Matan Torah. Lorsque tu vas baser une science, une philosophie sur l'esprit humain, c'est un refus de vouloir se soumettre à l'esprit divin, à la volonté d'Hachem. Parce que si j'admets que toute science, toute philosophie, comme dans le judaïsme, eh bien, elle est basée uniquement sur la Torah, sur le fait qu'Hachem s'est dévoilé au Har Sinaï, n'est-ce pas, il y a 3000 ans. Et on accepte ce qu'il a dit. Ça veut dire que je dois accepter uniquement ce qu'il a dit, et je dois, n'est-ce pas, en cas où mon esprit, ma conclusion, ne va pas de pair avec l'esprit de la Torah, eh bien, je dois m'écraser, je dois, n'est-ce pas, renoncer à ma conception. Et là, il y a le Tzara qui intervient, qui te dit non, parce que ce que j'y pense, n'est-ce pas, c'est aussi important. Bon, il est sûr que c'est mis à l'orgueil, mais c'est une autre forme d'orgueil, n'est-ce pas, que le fait de vouloir maîtriser et dominer. Le quatrième exil, pas c'est le nôtre, l'Empire des Romains, eh bien, nous dit le Midrash que cet exil-là, il comporte tous les Yetzarim ensemble, tous ces trois Yetzarim précédents ensemble, et d'ailleurs, c'est l'exil que nous vivons encore jusqu'à nos jours, jusqu'à l'avenir du Mashiach, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que le Midrash veut nous enseigner ici que Hachem demande à un Israël pendant des millénaires d'affronter plusieurs épreuves, de confronter plusieurs périodes, plusieurs époques, de se battre contre des ennemis, contre des empires, qui vont chacun vouloir, mis à part les guerres, de chacun vouloir entraîner, influencer Am Israël de son côté, comme l'ont fait, n'est-ce pas, ces empires-là, les ont amenés vers les plaisirs, vers les loisirs, vers la science et la philosophie grecque. Et ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, c'est affronter tous ces empires-là et rester Am Israël. Comme dit la Torah, « Hen am levada dishkon ou bagoim lo yitrashav » C'est-à-dire qu'Am Israël, eh bien, il est en solitude, il est solitaire, et il ne peut pas, n'est-ce pas, se mixer, se mélanger avec les autres nations. Si en effet on doit avoir aussi un respect pour tous les goyim, pour toutes les nations, on doit avoir des bons rapports pacifiques avec tout le monde, mais cependant, le mélange est interdit. Parce que dit le Midrash, comme si tu vas mélanger de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas. Même si tu les mélanges en les brouillant, tu attends quelques secondes, eh bien, ils se séparent. C'est-à-dire que c'est du domaine intrinsèque de Am Israël que c'est impossible de se mélanger.
Pourtant, le but de l'exil, c'est quand même de prendre des choses de la galoute. Dans chaque galoute, on a quand même quelque chose à prendre.
Il est sûr et certain que dans n'importe quelle période, n'importe quelle épreuve qu'on doit affronter, eh bien, en effet, il faut savoir, n'est-ce pas, faire le tri entre le bon et le mauvais. Par exemple, si on prend l'exemple de la science et de la philosophie, n'est-ce pas, qui est encore très vrai de nos jours aussi, eh bien, il est sûr et certain qu'on ne va pas refouler et refuser toute science, toute découverte scientifique qui a été faite par les goyim. Bien au contraire. Mais ce qu'on doit faire attention, c'est de ne pas considérer que l'homme est au service de la science. Mais au contraire, c'est que la science, elle est faite là pour nous servir. On voit des fois ce qu'on appelle une afkamina, des différences primordiales, très importantes, dans le domaine de la médecine, par exemple. Est-ce qu'on considère que l'homme est au service de la science, ou alors la science au service de l'homme? Si on dit que l'homme est là pour avancer la science, alors évidemment, n'est-ce pas, on ne va pas s'abstenir de faire ce qu'ils appellent en ivrite nitouche metim, de disséquer un mort, on dit comme ça disséquer un mort, c'est pas pour essayer d'avancer la médecine, pour essayer de faire de nouvelles découvertes. La Torah interdit cela. On doit, n'est-ce pas, uniquement utiliser la science et la philosophie pour servir l'homme. L'homme, c'est le but de la création du monde. Un Midrash dit dans Devilyahu que même la Torah, eh bien, elle a été donnée pour un Israël. On ne doit pas considérer que nous sommes là pour la Torah. Mais la Torah est là pour nous. Enfin, Hachem voit le but de l'humanité, eh bien, c'est l'homme, c'est un Israël. Et on doit utiliser, n'est-ce pas, tous les éléments matériels et toutes les valeurs spirituelles pour arriver à cela, pour élever l'être humain à un niveau spirituel grandiose. Et c'est pourquoi, en face de chaque épreuve, de chaque exil, alors on doit éviter d'être influencé, d'être transformé par tel ou tel exil, tel ou tel empire. Mais il est vrai, cependant, qu'on doit aussi faire le tri et prendre, choisir le bon du mauvais. Et d'ailleurs, en effet, c'est là où il y a le danger. Parce que si c'était totalement à refouler, à refuser, de prime abord, alors le danger aurait été moins grand. Parce que bon, tu sais, n'est-ce pas, que tu refuses tout, n'est-ce pas, tu es en train de te recueillir dans ton, pas dans ton, dans ton coin, et tu vas t'isoler, et tu vas vivre en autarcie, et automatiquement tu vas être à l'abri de toute influence. Mais comme au contraire, n'est-ce pas, on ne peut pas être vraiment, on ne peut pas mettre tout de côté, on ne peut pas dire aujourd'hui, eh bien la science, je m'en passe, je vais vivre comme vivaient mes ancêtres il y a 1000 ans et 2000 ans. On ne peut pas le faire, c'est impossible, c'est invivable. On ne doit pas le faire aussi. Hachem veut que tu utilises toutes tes découvertes scientifiques, mais dans la mesure, dans les conditions où ça ne va pas déranger l'être humain. C'est pourquoi, entre parenthèses, chaque fois qu'on va aborder de nos jours n'importe quel gadget, on va dire, n'importe quel objet, n'importe quel élément, n'importe quel ordinateur, n'importe quel média, eh bien, on doit tout d'abord, avant de se jeter dessus et d'être fasciné par la découverte, par le progrès, etc., dire attention. Attention, est-ce que ça va de pair avec la Torah ou pas? Si ça va enfreindre ne serait-ce qu'un petit sourd de Rabbanan, eh bien, ça met de côté, ça bannir. Ou alors, au contraire, faire la part des choses, savoir comment l'utiliser sans enfreindre la Torah. Mis à part la Torah, il y a aussi l'humanité, l'être humain, qui concerne aussi, d'ailleurs, tout le goyim. Parce qu'en effet, des fois, tu peux prendre une machine, eh bien, et tu peux esquinter l'être humain. C'est que, dernièrement, de... certaines, comment on dit, mercarines, certaines recherches scientifiques sont arrivées à la conclusion que la télévision des enfants qui regardent trop souvent des films, en vidéo ou dans la télévision, eh bien, ils deviennent de plus en plus passifs. Parce que tu t'habitues, pas plusieurs heures par jour, à être passif devant un film qui est passionnant, extraordinaire, alors ça va enlever cette faculté qu'on appelle l'initiative de l'être humain. Hachem n'a pas créé un être humain pour être passif, pour être un spectateur toute sa vie. Ben, il est vrai que des fois, n'est-ce pas, tu dois être spectateur, mais pour ensuite puiser des forces de ce que tu as observé, regardé, pour avoir encore plus d'initiative, pour entreprendre, pour agir, pour bâtir, fonder, etc. Mais si, n'est-ce pas, ces médias vont esquinter l'humanité, la personnalité, alors on a tout perdu. C'est pourquoi on doit être très prudent avant d'aborder n'importe quel objet ou gadget, vérifier est-ce que ça ne va pas nous déranger dans n'importe quel domaine, intellectuel, spirituel, moral, corporel, par rapport à la Torah, et uniquement dans la mesure où ça ne nous dérange pas, on pourra l'utiliser. Maintenant, mis à part, est-ce qu'on va l'utiliser ou pas, il y a aussi la quantité. Parce que des fois, tu peux prendre un élément, un objet, mais alors à petite dose, eh bien, c'est efficace. À grosse dose, eh bien, c'est néfaste, comme un médicament, ou des fois certaines vitamines. Eh bien, si tu en prends à petite dose, ça te fait du bien. Quand tu prends une grande dose, eh bien, c'est néfaste. Donc, si c'est pareil, n'importe quelle découverte scientifique, il faut savoir doser pour que ça soit uniquement efficace pour l'être humain. Top. Donc, on revient à Pourim. On a dit que Pourim, eh bien, c'était quoi? Cet empire iranien, eh bien, était basé sur le fait de vouloir profiter au maximum du monde. Top. Alors, on va dire un mot là-dessus. Il est vrai que la Torah ne nous interdit pas de profiter du monde et d'y prendre plaisir. Au contraire, la Gemara dit dans Yerushalmi que Atid Adam Nitinat Adin Al-Mashira Wena Veulo Nehena Mehem. C'est-à-dire qu'un être humain, il va donner des comptes devant Hachem pour tout ce qu'il a vu comme fruit sur terre et n'en a pas profité. C'est-à-dire que, en effet, il est bien, il est important, il est recommandé, il est conseillé de goûter au moins une fois dans sa vie de chaque fruit de la terre. Ce que dit la Gemara. Pourquoi? Pour remercier Hachem, pour contempler, admirer les créatures extraordinaires qu'Hachem a fait sur terre. De nos jours, malheureusement, on est tellement habitué à tout cela qu'on accorde plus d'importance à n'importe quel élément, n'importe quelle plante, n'importe quel fruit, alors qu'en fait, si on se met à examiner chaque petit élément, chaque petite plante, chaque petit fruit, on voit que c'est un monde en soi. Et dans ce domaine-là, entre parenthèses, eh bien, la science peut nous aider beaucoup. C'est-à-dire qu'en effet, lorsqu'on constate, n'est-ce pas, la structure de l'atome, les molécules, etc., et tout ce qui s'appelle chilufei chomarim, les interéchanges qui se font, n'est-ce pas, entre les milliards de cellules dans chaque plante, c'est inouï, ça dépasse notre imagination. Et dans cette optique-là, on doit contempler, on doit admirer ce que Hachem a créé au monde. C'est pourquoi dit la Gemara que si on se prive de tout cela, et donc on ne va pas profiter de cela. Et Hachem ne l'a pas créé en vain. Hachem l'a créé pour qu'on puisse connaître un petit peu de sa grandeur. D'ailleurs, dit la Gemara là-bas que Rabbi aussi, même il économisait de l'argent toute l'année pour pouvoir, n'est-ce pas, goûter de chaque fruit nouveau lorsqu'il apparaissait sur les arbres. Donc, bien qu'on a dit ça pour les fruits, mais en fait, ce n'est pas uniquement pour les fruits, mais c'est pour tout ce que Hachem a créé sur terre. Par exemple, c'est aussi écrit qu'il est bien, il est conseillé de constater, de contempler tout ce qu'Hachem a créé sur terre. On raconte à ce sujet-là que le Rav Char, une fois en excursion avec ses élèves, et deux élèves ont commencé à réviser une Gemara, le Rav Char leur a dit maintenant, ce n'est pas le moment d'étudier la Gemara, c'est le moment de constater, de contempler les merveilles du monde. Lorsqu'on contemple, n'est-ce pas, les cascades, les ruisseaux, et les fleuves, n'est-ce pas, et les montagnes que Hachem a créées, ça peut nous amener à connaître un petit peu de la grandeur d'Hachem. D'ailleurs, le Rambam, Maïmonide, dit dans Ilchot Deot, dans ce domaine-là, c'est que cela, ça peut nous aider non seulement à connaître la grandeur d'Hachem, mais arriver à la mitzvah de Yirat Hachem, ainsi que de Avat Hachem. Craindre Dieu, aimer Dieu, eh bien, on peut y arriver. Un des chemins, un des sentiers pour y arriver, c'est contempler les merveilles d'Hachem dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce que pour craindre Hachem et pour l'aimer, il faut le connaître. Et pour le connaître, comment est-ce qu'on peut le connaître? On ne le voit pas. On peut voir ce qu'il a créé. Quand tu ne connais pas un peintre, alors bon, quand tu vois sa peinture, alors tu ne le connais pas, mais tu connais son œuvre, tu connais son art. Tu peux déjà remarquer, est-ce que c'est un grand artiste? Est-ce que c'est un professionnel ou est-ce que c'est un petit amateur? Par aussi, pour Hachem, lorsque tu vas contempler ce monde qu'il a créé, eh bien, tu pourras commencer à connaître la grandeur d'Hachem. Ça pourra t'amener à Yirat Hachem, ainsi que ne t'interdit pas de prendre profit de ce monde-ci. Non pas, n'est-ce pas, comme certaines religions ou certaines philosophies qui prétendaient que si un être humain désire s'élever spirituellement, eh bien cet homme-là devra automatiquement, obligatoirement, se séparer du monde matériel. Il faudra ne pas se marier, il faudra jeûner autant que possible, etc. Il ne faut pas profiter du monde. La Torah ne nous dit pas cela. Au contraire, on voit par exemple que chaque fois qu'on a l'occasion de faire une mitzvah, disons beaucoup de mitzvot, eh bien on fait tout de suite ce qui s'appelle une seudat mitzvah. Que ce soit un mariage, des fiançailles, une bar mitzvah, un brit, pidyonaben, eh bien tout de suite on a cette mitzvah. Shabbat yom tov, eh bien l'essentiel de onek shabbat, eh bien c'est par les trois repas de shabbat. L'essentiel de simchat yom tov, ainsi que simchat purim, c'est par les repas et les festins de Yom Tov et de Purim. Donc on voit, n'est-ce pas, qu'au contraire, on va ici mêler le spirituel avec le matériel. Alors en fait, donc, quelle est la dose exacte, quelle est la devise précise et juste que nous donne la Torah à ce sujet-là? Parce qu'en effet, quand on dit que l'empire iranien, l'empire de Madaï et Paras, eh bien, est venu affecter, déranger, perturber Israël par leur idéologie, leur conception, qu'en effet, l'être humain est là pour profiter au maximum de ce monde-là, dans n'importe quel domaine, tous les profits et loisirs possibles. La différence est la suivante. Est-ce qu'on considère le plaisir et le loisir comme un moyen, ou alors comme un accessoire? Pardon. Comme une fin en soi, un but en soi, ou alors un moyen et un accessoire. C'est-à-dire que l'empire de Madaï, au temps de Hachvéroch et de Haman, voyait les plaisirs de la vie, les plaisirs matériels, comme une fin en soi. C'est une finalité et c'est l'essentiel. Et plus tu vas profiter dans ta vie de ce monde-là, plus tu auras réussi ta vie. Moins tu vas profiter, eh bien, la vie, elle est ratée. On voyait l'être humain qui profitait le maximum de cette vie-là, eh bien, c'est lui qui a réussi dans sa vie. Et c'est en effet, c'était ce qui était propagé, ce qui était véhiculé par la conception d'Achashverosh et de Haman. On voit qu'Achashverosh faisait des festins pendant 180 jours. Il y avait, n'est-ce pas, des ustensiles en or et en argent et du marbre, n'est-ce pas, et puis d'une richesse, des milliards étaient jetés dans ces festins. On donnait à chaque personne kirtson ishvaïs selon sa volonté personnelle. Pourquoi ? Parce qu'il voyait le plaisir en soi comme une fin, une finalité. La Torah nous dit que le plaisir, ce n'est pas une fin en soi. On ne doit pas l'éliminer, on ne doit pas en faire table rase, mais on doit l'utiliser comme un moyen, comme un accessoire. Puisqu'en effet, la finalité, c'est au contraire tout ce qui est moral, intellectuel, spirituel. L'être humain doit en effet s'élever spirituellement. Mais cependant, on ne doit pas oublier que l'être humain est composé d'une âme et d'un corps. Lorsqu'on parle de cette fusion entre le corps et l'âme, entre parenthèses, c'est écrit dans les commentateurs que ça s'appelle d'avoir pelé mouflé, c'est quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire. Lorsqu'on dit la bracha, rofe kol basar ou mafli la asot, qu'Hachem a créé chaque créature ou mafli la asot, il a fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est pelé, c'est sensationnel. Eh bien, on parle de quoi? On parle de cette fusion entre le corps et l'âme. Le corps qui, en effet, lui, est matériel, et l'âme qui est spirituelle, eh bien, c'est vraiment une fusion extraordinaire qui puisse cohabiter ensemble et agir ensemble. Et c'est pour cela, n'est-ce pas? C'est pour cela, puisqu'on constate que Hachem a créé ce lien étroit entre le corps et l'âme, que rien ne peut séparer à part la mort. C'est-à-dire que la vie, eh bien, c'est spécifiquement, spécialement la cohabitation ainsi que l'action réunie, mutuelle, du corps et de l'âme. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est faux de considérer que le but dans la vie, c'est uniquement le plaisir dans les domaines matériels. Parce que là, tu vas tenir compte uniquement du corps et oublier l'âme. C'est aussi faux de considérer que le but de l'être humain, eh bien, c'est uniquement l'élévation spirituelle en oubliant le corps, n'est-ce pas, en l'écrasant, en le refoulant. Parce que tu vois, n'est-ce pas, que le corps est lié à l'âme, l'âme est liée au corps. Donc, automatiquement, on doit les faire travailler, cohabiter ensemble. Mais cependant, on doit bien connaître, bien savoir quelle est la mission, quel est le rôle de chacun d'eux, le corps et l'âme. Alors, on avait ramené une fois une Gemara dans Sanhedrin. Ça dit Aleph. La Gemara rapporte que Antoninos posait souvent des questions à Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Nakadosh, Rabbi Danassi, qui est le rédacteur de la Mishnah. Alors Antoninus, une fois, lui a dit la chose suivante. Antoninus a dit à Rabbi que dans le monde futur, eh bien, l'être humain pourra être exempté totalement de la punition. Pourquoi ? Parce que le corps va accuser l'âme, l'âme va accuser le corps. Le corps va dire à Hachem, c'est l'âme qui a fauté. La preuve, c'est que depuis que l'âme a quitté, je suis comme un cadavre inerte. Et l'âme dira pareil, c'est le corps qui a fauté. La preuve, c'est que depuis que j'ai quitté le corps, eh bien, je suis comme un oiseau qui vole en l'air sans faire de faute. Alors, Rabbi a dit à Antoninus, je vais te donner un machal, une petite parabole là-dessus. Il y avait un roi qui avait un verger extraordinaire dans lequel il y avait les fruits les plus rares et les plus précieux de la terre. Et le roi de voyager a dit, il a pris deux gardiens, les a nommés pour surveiller son verger, que personne ne vole les fruits extraordinaires. Donc, ces deux gardiens-là, eh bien, comme par hasard, l'un était aveugle, l'autre il était boiteux. Lorsque le roi est parti, eh bien, l'homme boiteux a dit à l'aveugle que je vois ici des fruits extraordinaires, mais moi je ne peux pas grimper sur l'arbre. Eh bien, je vais grimper sur toi et je vais cueillir ces fruits-là, on va les déguster ensemble. Ce qu'ils ont fait. Lorsque le roi est revenu, où sont les fruits? Chacun accuse l'autre. L'aveugle dit qu'il ne peut pas voir, il n'a pas vu les fruits. Le boiteux dit qu'il ne peut pas grimper. Le roi a pris l'un, a mis sur l'autre, il a dit, voilà les deux ensemble, vous avez pris mes fruits, vous les avez mangés. Par aussi, Hachem, il remet l'âme dans le corps et dit à l'homme, tu as fauté, n'est-ce pas, avec cette jonction, cette fusion de l'âme et du corps. Bon, c'est une bras qui est très complexe à comprendre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement un point précis là-dessus. Cette mara nous dit la chose suivante, que, attention, le corps, il est comparé à un homme qui est aveugle, alors que l'âme est comparée à un homme qui est boiteux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps, il est aveugle, il ne voit pas, il n'est pas objectif, il ne voit pas ce qu'il a en face de lui. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Si tu sers à quelqu'un une cigarette ou un whisky ou n'importe quel autre plat extraordinaire, eh bien le corps ne va pas s'intéresser, ne va pas voir est-ce que c'est bon pour sa santé ou pas. Est-ce que c'est bon ou mauvais à longue échéance? Il est uniquement intéressé, est-ce que ça a bon goût, est-ce que ça va me procurer un plaisir ou pas. Le corps est aveugle. L'âme, au contraire, elle est clairvoyante. C'est notre âme, c'est difficile de la cerner, de la discerner. Et bon, on avait dit plusieurs fois qu'elle se situe surtout au niveau du cerveau et du cœur. Top. Alors cette âme-là, elle est clairvoyante, elle peut vraiment se rendre compte, prendre conscience de chaque élément. Est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi, que ce soit un aliment, une boisson, une décision, un voyage, une action? Eh bien, c'est l'âme, c'est l'esprit humain, la réflexion, le da'at, ce qu'on appelle le da'at, qui peut te dire est-ce que c'est bon ou mauvais pour toi. C'est pourquoi, avant d'agir, on ne doit pas se précipiter, on ne doit pas agir selon les tendances, selon ce qui nous pousse de façon instinctive, parce que ça peut être bien souvent, n'est-ce pas, une tendance du corps, les instincts, les passions, mais on doit marquer un temps de réflexion, avoir un certain recul, essayer de se déconnecter de la situation dans laquelle on se trouve, essayer d'analyser, de décortiquer les éléments de la situation, essayer d'analyser toutes les forces qui agissent en nous, et ensuite transmettre tout cela à notre esprit, qui lui va prendre la décision qui doit être objective, qui doit être pas droit, vrai et juste. Top. Alors l'âme, la neshama, elle est clairvoyante. Elle sait ce qui est bon ou mauvais pour toi. Par exemple, la neshama, l'esprit, eh bien, pourra dire, attention, est-ce que cette boisson, cet aliment, cette cigarette, c'est bon ou mauvais? Eh bien, je vais demander à un grand médecin, je vais transmettre ça à un laboratoire. Lorsque j'aurai les résultats et je constaterai, est-ce que c'est bon ou mauvais? Là, je vais décider, est-ce que je vais l'utiliser, en profiter ou pas? Si oui, à quelle dose, à quel moment, etc. Mais la neshama, l'âme, elle a un problème. Bien qu'elle est clairvoyante, mais elle ne peut pas agir. L'âme, n'est-ce pas, notre neshama, elle n'a pas des éléments, elle n'a pas des pieds et des mains, des doigts pour agir dans ce monde qui est concret. Voilà ma maasé. Elle doit agir par l'intermédiaire du corps. Le corps, on a dit, il a un handicap, qu'il est aveugle. Mais le corps, lui, peut agir. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, il a un avantage, un inconvénient. L'âme, elle est objective, elle est clairvoyante. Mais elle ne peut pas agir. C'est comme l'homme qui est boiteux, qui voit ses fruits dans le verger, mais qui ne peut pas les cueillir. Alors que le corps, c'est l'homme qui est aveugle, il ne voit pas, mais c'est lui qui peut agir. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que lorsque tu veux agir, eh bien, il faut savoir donner, respecter les rôles du corps et de l'âme. Et donner à chacun son rôle et sa responsabilité. C'est-à-dire que lorsque tu vas agir, eh bien c'est le corps qui agit. Mais c'est l'âme qui donne des ordres. C'est la neshama, n'est-ce pas? C'est l'esprit qui va te dire, est-ce que je fais ci ou est-ce que je ne le fais pas? Même si je le fais, dans quelle mesure, quel domaine, quelles circonstances, pendant combien de temps, à quelle dose, etc. Ça c'est l'âme qui doit nous aider, qui doit prendre la décision et qui doit diriger, qui doit tenir les rênes. Mais concrètement, eh bien, cette âme, elle agit avec le corps qui lui réalise tout ce qu'on fait. En effet, le corps lui-même, il pourrait pas, pardon, l'âme ne pourrait pas manger la matzah, faire la tfila, prendre le loulav, etc. Toutes les mitzvot, on les fait par l'intermédiaire du corps, mais c'est l'âme qui doit diriger les opérations. Donc, c'est ce que dit Rabbi Antoni, c'est qu'en effet, le corps et l'âme, eh bien, il y a une fusion extraordinaire entre eux, et on doit savoir à quoi s'en tenir, quelle importance donner à chacun, prendre conscience du rôle de chacun. Donc, c'est pourquoi l'empire de Madaï posait un problème pour Amisraël. Parce que même si on ne doit pas bannir tout ce qui est plaisir, tout ce qui est matériel, mais on doit être prudent, être conscient que le corps, il est aveugle. Et si tu vas transmettre la direction, l'orientation de ta vie quotidienne à ton corps, c'est catastrophique. Comme un cavalier qui va lâcher les rênes de son cheval, eh bien le cheval va le conduire n'importe où, n'importe comment. C'est le cavalier qui détient les rênes. Pareil aussi pour nous, c'est la neshama qui est en train de chevaucher sur le corps, qui doit tenir les rênes, qui doit diriger le corps. Donc même lorsqu'on doit prendre plaisir de ce monde-là, lorsqu'on doit toucher à tout ce qui est matériel, on doit savoir l'utiliser, mais selon les directives de notre neshama. Et c'est là, n'est-ce pas, où l'empire de Madaï posait un problème, parce que eux estimaient, leur idéologie, c'était que le plaisir matériel, c'est le but de l'être humain. Et au contraire, le monde matériel, il est là que pour nous déranger. Et si on doit l'utiliser, c'est le contraire. On doit utiliser, n'est-ce pas, les facultés morales, intellectuelles et spirituelles pour prendre encore plus de plaisir corporel et physique. Alors que la Torah dit le contraire. Le but à atteindre, eh bien, c'est tout ce qui est spirituel, moral, intellectuel. Au contraire, tout ce que ton corps, les forces physiques que tu as, peuvent t'aider, doivent t'aider pour mener à bien cette finalité.
Une des difficultés quand même, c'est que quels sont les yeux de la Neshama? Parce que finalement, la Neshama, elle reçoit des informations tous les jours à partir des cinq sens que détient le corps et qu'il lui envoie. Donc si je pouvais voir tel que le boiteux qui avait une vue, comment ça fonctionne, ça serait déjà plus simple. Sauf que là, il y a le prisme du corps qui fait que la Neshama, elle ne voit pas directement les choses.
Tu veux dire, comment est-ce que la Neshama pourra voir les choses de façon claire et prendre la décision, puisqu'elle est mêlée constamment au corps?
Bon. Que le corps ne puisse pas lui voir les choses, la profondeur dans les choses, c'est évident. Mais comment la Neshama elle peut voir, elle, à travers tout ça, sachant qu'elle est soumise au corps, aux cinq sens? C'est
Donc, ça qui fait des plus. La Neshama, elle voit. Tu veux dire, tu veux poser la question, en d'autres termes, c'est que comment je pourrais savoir, est-ce que telle décision, elle vient du corps ou de la Neshama?
Non, la
Neshama voit. La Neshama voit, même sans qu'on le sente. Maintenant, tu veux dire comment arriver à cette Neshama, parce que je ne vois même pas cette Neshama. Donc, bon, en effet, c'est une notion qui est très complexe, c'est encore un autre cours à part, mais on va dire deux mots là-dessus. Tout d'abord, il faut s'habituer à se connaître. C'est-à-dire à discerner en soi qu'est-ce qui me pousse à agir de cette façon ou de cette manière. Est-ce que c'est une tendance qui est uniquement intéressée? C'est une tendance instinctive? Est-ce que ça provient d'une réflexion, d'une méditation? Est-ce que parce que je suis le courant, je le fais parce que tout le monde fait, etc. Toute la première chose à faire, c'est ne pas, comme on l'a dit auparavant, ne pas se précipiter. Ne pas agir de façon trop hâtive, trop précipitée, mais prendre un temps de réfléchir, premièrement. Deuxièmement, il faut essayer de se détacher de la situation donnée. Parce que une fois que tu es installé dans la situation donnée, avec toutes les circonstances que ça comprend, alors tu ne vois plus ce qui est autour. Puis, on va dire, machal, comme si tu t'élèves sur un hélicoptère et tu es en train d'examiner ce qui se passe sur Terre. Et grâce à ça, tu vas essayer d'examiner quelles sont les forces qui vont te pousser à faire ceci ou cela. Est-ce que c'est une tendance instinctive ou non? C'est une tendance spirituelle, morale, intellectuelle. Une fois que tu as tous les éléments en face de toi, dans ta main, tu pourras prendre la bonne décision. Bon, ça en bref, hein, il faut encore un cours entier là-dessus, vous attachez. Donc, on va terminer puisque le temps presse. Donc, en fait, ce qu'on nous demande, et puisqu'on a dit, n'est-ce pas, que cet exil de Madaï n'est pas terminé, puisqu'en effet, notre exil, l'exil de Edom, le quatrième exil, comprend, n'est-ce pas, les trois premiers exils de Babel, Yavan et Madaï. C'est-à-dire que de nos jours aussi, eh bien, il y a cette tendance de vouloir profiter du monde le maximum possible. Et comme dit, eh bien, là aussi, le problème est-ce que le plaisir, c'est une fin en soi, ou alors c'est un moyen d'y accéder? Alors, comme on l'avait dit, par rapport à la science, c'est-à-dire que la question, est-ce que tu mets la science au service de l'homme, ou alors l'homme au service de la science? Platon nous recommande, attention, tu peux utiliser toutes les grandes découvertes scientifiques extraordinaires, mais uniquement dans la mesure où tu vas élever, faire avancer l'être humain et non pas le faire régresser. Par aussi, eh bien, tout plaisir corporel, tout loisir de ce monde-là, eh bien, on peut l'utiliser, mais uniquement dans la mesure où ça va te faire avancer dans le domaine moral, intellectuel et spirituel. Dès qu'on sent, n'est-ce pas, que ça va à l'encontre de tout cela, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, tout d'abord, n'est-ce pas, ça explique beaucoup de choses qui sont interdites par la Torah. En effet, on sait bien que la Torah, elle est pleine de Issourim. Il y a 365 mitzvot qui s'appellent des lavim, interdictions. Alors si on, de prime abord, on peut dire que bon, n'est-ce pas, bon, faut pas exagérer. Et donc, bon, je veux bien faire la Torah, je veux bien m'élever spirituellement, mais tout est interdit, on ne peut plus bouger, n'est-ce pas, le Shabbat, je ne peux pas bouger, je veux manger, alors on a 36 halakhot pour ce qui est kasher et pas kasher, etc. Dans tout le domaine, il y a du interdit. Alors ça, n'est-ce pas, c'est une vision qui est plutôt superficielle. Au contraire, si on examine la question de près, eh bien on constate qu'en effet, la Torah nous interdit ce qui va altérer, ce qui va affecter notre neshama, ce qui va affecter nos facultés spirituelles et morales. Parce qu'en effet, si on se laisse aller au gré du vent, au gré du temps, pas si on va se laisser faire n'importe quoi, uniquement écouter son corps, prendre n'importe quel loisir et plaisir corporel qui se renouvelle, n'est-ce pas, dans toutes les générations, aux quatre coins du monde, alors automatiquement, eh bien, les facultés morales, même intellectuelles et spirituelles, vont être affectées. Je voudrais vous signaler, entre parenthèses, dans ce domaine-là, il m'est venu à l'idée à l'instant, qu'au Japon, depuis déjà au moins des dizaines d'années, eh bien, les écoles, dès l'âge de 7 ans, sont séparées entre les garçons et les filles. Parce que, n'est-ce pas, les grands dirigeants japonais se sont rendus compte que lorsque les garçons et les filles sont ensemble dans une classe, eh bien, les records intellectuels sont diminués de beaucoup. C'est-à-dire que, puisqu'en effet, ce sont des caractères différents, bon, des fois, il y a une certaine gêne, des fois, il y a une envie, n'est-ce pas, de vouloir, de vouloir frimer, de vouloir montrer qu'on est le meilleur par rapport aux garçons, par rapport aux filles. Alors, automatiquement, n'est-ce pas, tout est faussé, même les facultés intellectuelles sont affectées par cela. Eh bien, les Japonais se sont rendus compte de cela, n'ont pas hésité à séparer toutes les écoles à l'âge de 7 ans. C'est-à-dire que, bon, on peut prendre l'exemple de cela, que dans n'importe quel domaine ou n'importe quel plaisir ou loisir peut nous affecter tout ce qui est du domaine moral ou intellectuel ou spirituel, on doit s'en préserver. Et c'est pourquoi la Torah, qui nous interdit, elle ne vient pas nous priver, au contraire, elle vient préserver. Elle vient préserver ta neshama, elle vient conserver tes facultés morales et intellectuelles, que tu puisses les utiliser, les exploiter au maximum. C'est de cette façon, n'est-ce pas, qu'on peut affronter, confronter les épreuves différentes que viennent nous proposer l'Empire Occident de nos jours, n'est-ce pas, et puis en Iran il y a 2000 ans, parce qu'en effet, eux considéraient que tout ce qui est plaisir, c'est un but en soi. La Torah nous dit, attention, le but c'est pas ça. Tu peux l'utiliser, mais dans le domaine où la Torah te le permet, selon, n'est-ce pas, aussi les temps respectés, la dose à respecter, non seulement tu vas pas être privé, mais au contraire, c'est là où tu pourras, n'est-ce pas, exploiter, profiter encore mieux de toutes tes facultés que Hachem t'a donné. De cette façon-là, n'est-ce pas, eh bien on peut encore plus exploiter tout ce qu'Hachem nous a donné. Bon, c'est encore assez, mais on va s'arrêter là pour le moment, mes attachés. D'accord.